Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ce que femme veut, Dieu le veut, dit l'adage. On pourrait également dire ce que Dieu veut, les femmes le révèlent. Car contrairement aux idées reçues, le Dieu des chrétiens aime les femmes et passe souvent par elles pour parler aux hommes. C'est le cas évidemment de Marie, mère de Jésus, figure de femme par excellence. Qui est Marie? Que nous dit-elle de Dieu? Ou plutôt, qu'est-ce que Dieu a révélé de lui à travers elle, à travers cette femme d'Israël, née il y a plus de 2000 ans? Les femmes dans la Bible, cinquième, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous accompagner, Cyprien Comte, vous êtes prêtre et maître de conférence en théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait un détour par nos studios. Donc on continue notre grande série annuelle sur les femmes dans la Bible, cycle de conférences donné donc à l'Institut catholique de Toulouse. Alors j'ai fait une petite erreur ce matin dans le teasing, votre conférence est passée, puisqu'on fait ces émissions un peu en décalé. Allez, on va commencer par ça. Les femmes dans la Bible, c'est vrai qu'à chaque fois, entre guillemets, je me fais un petit peu plaisir en essayant de gratter cet a priori que le Dieu des chrétiens est un Dieu machiste. Si on part de très très loin, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez encore, et est-ce que dans le fond c'était un petit peu le sens aussi de cette série sur les femmes dans la Bible?
Il y a quelque chose de cela, parce que le Dieu auquel nous croyons s'est révélé en fait dans une société qui est dirigée par les hommes, et l'histoire biblique est écrite surtout ou peut-être exclusivement par les hommes. Et alors, du coup, la place des femmes n'est sans doute pas ce qu'elle devrait être. Ceci dit, c'est quand même un préjugé, parce que, en effet, y compris à l'époque biblique, il y a beaucoup de nouveautés et d'importance accordées aux femmes dans la société, dans la religion, et notre cycle de conférences veut effectivement s'en faire l'écho.
Alors ce cycle de conférences, donc il court depuis le mois d'octobre, il se finira en juin. On donnera la date de la prochaine. On peut dire que tout est à retrouver donc aussi sur le site formationdiocèse31.org, c'est-à-dire en gros qu'on peut les réécouter. Qu'est-ce qui a présidé à la logique de ce cycle de conférences? On en avait une première, être femme, donner la vie, un parcours biblique. On avait vu ça avec sœur Marie-Philomène Diouf. Et puis après, on a rencontré quelques figures, entre autres donc la figure des femmes auprès des puits dans l'Ancien Testament. Les noms m'échappent, vous allez m'aider. Voilà, pardon, la femme pardonnée après on avait vu la femme pardonnée comme figure prophétique, donc c'était dans l'évangile, et puis la figure de Judith. Alors aujourd'hui on va se pencher sur Marie. Peut-être quelles sont les grandes lignes qui ont présidé à la logique de ce cycle de conférences, si vous prenez compte?
Écoutez, ça fait maintenant je crois à peu près 25 ans hein, que mes collègues enseignants, enfin moi je n'y étais pas, à l'Institut catholique font des cycles de conférences. On a choisi ce thème, donc, qui a aussi quelque chose à voir avec l'actualité du monde et puis l'actualité de l'Église. La première conférence donc était vraiment un parcours sur l'ensemble de la Bible, et sœur Marie-Philomène Diouf, qui enseigne à l'IERP, à l'Institut catholique, a donc choisi ce thème de « être femme, donner la vie ». Et puis ensuite, les collègues avaient une certaine latitude. Et à vrai dire, on fait en fonction de l'agenda des collègues.
Donc en tout cas, on pioche des figures et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament.
Des figures ou des thèmes, effectivement, de manière relativement libre. Et puis on parcourt comme ça, en effet, on finira par les femmes dans l'évangile de Jean. On n'a pas cette année l'Apocalypse, mais ça sera pour une autre année.
On va parler donc de Marie, puisque vous allez nous parler du Magnificat et donc forcément de cette figure de Marie. Juste, à chaque fois, je posais la question qui peut-être intrigue aussi nos auditeurs. Comment devient-on, vous êtes en fait tous des exégètes, comme on dit dans le jargon, comment est-ce qu'on devient exégète, Cyprien Comte?
Alors, à vrai dire, il faut commencer par faire quelques études de théologie. Notre socle commun, c'est que nous avons tous passé l'équivalent d'une licence, même si c'est une très longue licence en théologie, avant de nous spécialiser en études bibliques pour la plupart des intervenants. Je dis la plupart parce qu'on a aussi quelques invités à l'occasion. Et là, notamment, il y a un ancien étudiant de notre faculté qui a fait un master de théologie en Belgique, et il avait longuement travaillé ce passage sur lequel il nous a donné une conférence. Mais à vrai dire, les autres collègues sont tous des biblistes. Alors on dit quelquefois plutôt biblistes que exégètes. Certains sont plus exégète, c'est-à-dire nous avons appris à, pardonnez-moi l'expression familière, à couper un peu les cheveux en quatre ou les versets en dix, pour essayer de voir ce qu'on peut dire sur chaque mot et parfois même sur chaque lettre ou sur chaque voyelle. D'autres sont plus des théologiens qui ont appris à avoir un regard d'ensemble sur soit un thème biblique, soit un thème théologique dans un ensemble de la Bible qui n'est pas forcément toute la Bible. En tout cas, voilà, nous sommes tous des biblistes et nous avons donc passé un certain nombre d'années à étudier d'abord le grec et puis l'hébreu, évidemment, pour avoir accès aux textes originaux de la Bible, et puis un petit peu d'histoire et beaucoup de travail sur les textes pour apprendre à lire ce que disent vraiment les textes. Peut-être ça vaut la peine de dire ce que signifie le mot exégèse, justement. Ça signifie qu'en fait, on veut... déterminer, transmettre ce qui vient du texte. Vous voyez, c'est le préfixe ex. Et en fait, l'exégète, le bibliste, ont cette prétention de ne pas dire ce qui vient d'eux, mais d'essayer de comprendre ce que le texte nous dit. C'est une étape que, en fait, tous doivent faire quand ils veulent lire la Bible.
Alors, c'était justement le sens de ma question. La question que je voulais vous poser, c'est quel équilibre entre ce que dit le texte et le travail historico-critique? C'est-à-dire, est-ce que c'est tout un, ou est-ce que il faut toujours continuer à avoir en tête, en fait, ce que Dieu dit, tout simplement, en dehors du travail de la raison?
Alors c'est vrai que nous sommes tous des universitaires et du coup je parle des exégètes, hein, voilà. Du coup on travaille vraiment toujours dans le champ de la raison. Comme nous sommes des exégètes catholiques, nous travaillons aussi à l'intérieur du domaine de la foi, et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Par contre, il est vrai que l'Église, depuis maintenant un certain nombre de décennies, laisse le champ libre vraiment pour la recherche scientifique et exégétique. Et du coup, quand nous travaillons sur le texte, nous travaillons sur le texte a priori sans autre présupposé. Et heureusement, on se rend compte en étudiant les textes bibliques qu'il n'est pas possible de leur faire dire autre chose que ce que dit la révélation. Peut-être qu'il y aurait des exégètes en dehors du monde croyant, mais je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Sans doute ça existe, hein, effectivement. Mais en tout cas, chez nous, il n'y a pas de contradiction, hein, entre la foi et la raison. Et nous essayons humblement de mettre le travail intellectuel qui nous est demandé, voilà, au service ensuite de la foi. Et c'est vrai que c'est aussi un travail qu'on essaye de faire, notamment avec ces conférences, puisque le but n'est pas de déterminer ce que dit tel mot de la Bible en tant que tel. Pour ça, il y a les dictionnaires et les travaux des spécialistes, mais de donner accès au plus grand nombre, aux personnes qui s'y intéressent, vraiment aux résultats les plus passionnants et les plus pertinents théologiquement et spirituellement, ecclésialement aussi, on peut dire, de nos travaux et d'ailleurs des travaux de nos collègues.
Alors, venons à la figure de Marie. Vous me direz, Marie, c'est un grand classique pour les catholiques, mais si on devait commencer par le début, peut-être reposer quelques questions. Qui est Marie, tout simplement? Je sais pas, elle avait quel âge, par exemple, au moment de... Parfois, c'est une question qui trotte dans l'esprit des chrétiens pratiquants. Qu'est-ce qu'on savait, en fait, exactement d'elle? Peut-être l'âge au moment de l'Annonciation, de quelle tribu était-elle, quel était un peu son profil?
Alors, à ma connaissance, les renseignements que nous avons sur la Vierge Marie, c'est ceux qui sont dans l'Évangile. Et je dis la Vierge Marie parce que, clairement, dans l'Évangile de Saint Luc, on parle de cette jeune fille comme ayant été accordée en mariage à un homme de la tribu de Judas, un descendant de David qui est Joseph, bien sûr, de Nazareth. Mais en fait, on ne sait pas beaucoup plus sur elle. On peut penser que, comme les jeunes filles de l'époque, elle avait sans doute 12, 13, 14 ans, parce que c'est l'âge du mariage dans la société juive traditionnelle. Et puis, on précise bien qu'elle n'avait pas encore habité avec son mari, c'est-à-dire qu'elle était dans cette espèce d'entre-deux où elle était déjà vraiment mariée, mais elle ne menait pas encore la vie commune avec Joseph. Et donc, on n'en sait pas beaucoup plus, sinon que, parce que c'était la coutume, on peut penser qu'elle était probablement de la même tribu que Joseph.
On connaît le nom de ses parents quand même?
Alors la tradition nous dit le nom de ses parents. On parle de Sainte-Anne et Saint-Joachim, et on visite même leur maison à Jérusalem. Mais à vrai dire, l'Évangile n'en parle pas. Et donc, il y a peut-être des textes apocryphes. Je n'ai pas exploré assez cette littérature qui en disent quelque chose. En tout cas, dans l'esprit des chrétiens et des pèlerins de Jérusalem, on connaît le quartier où vivait la famille de la jeune Marie, mais j'allais dire c'est presque étonnant puisque en fait cette jeune fille a été mariée à un homme de Nazareth. Et alors peut-être que des auditeurs se rappelleront avoir vu les images ou même être allés dans cette grande église romane à Jérusalem qui est la basilique Sainte-Anne et qui est l'endroit où donc on fait mémoire de la maman de la Vierge Marie qui est aussi la patronne des Bretons, je crois.
C'est-à-dire en fait que dans le fond, Marie, on sait très peu de choses d'elle, comme de Joseph, qui est mis en valeur à l'occasion de cette fameuse année Saint-Joseph, dont on a parlé un peu à cette antenne.
On sait peu de choses d'un point de vue strictement historique. Ceci dit, combien y a-t-il de personnages de la Judée du début du 1er siècle ou de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, sur qui on sache vraiment quelque chose? En fait, le nombre de ces personnes est extrêmement mince, à part quelques personnalités politiques de premier plan. Mais sinon, comme en plus les historiens, et ils ont raison, sont assez exigeants pour pouvoir affirmer quelque chose qu'ils estiment fiable sur un personnage, on peut dire qu'en fait, on a très peu d'éléments. Et je pense que les historiens diraient même, on n'a que les évangiles, et puis la tradition qui dépend des évangiles. Et donc, c'est parfois un petit peu déroutant pour nous, mais il faut rappeler que les évangiles, comme l'ensemble des récits bibliques d'ailleurs, sont des textes qui ne sont pas d'abord des textes historiques au sens contemporain du terme. Ce sont des textes qui transmettent une foi, qui nous aident à vivre aujourd'hui, peut-être d'ailleurs plus que certains textes historiques de l'époque, même si j'ai un grand respect pour l'histoire et pour les historiens, et que la visée de la Bible, et notamment la visée de l'évangile de Saint-Luc, puisque c'est de cela que nous parlons, elle est d'abord théologique.
Alors vous avez choisi le Magnificat, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte comme...
Alors le Magnificat,
thème de votre conférence.
Parce que c'est un texte que tellement de personnes...
Faut peut-être dire en deux mots ce qu'est le Magnificat.
Ah bien sûr.
L'exultation de Marie.
Voilà, le cantique de Marie. C'est au premier chapitre de l'Évangile selon saint Luc, où en fait Marie vient de recevoir l'annonce de l'ange Gabriel qu'elle serait la mère du Sauveur, en hâte... Après avoir dit sa disponibilité à l'ange, on connaît les mots de Marie, hein, « Voici la servante du Seigneur, qu'il se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et Marie, en hâte, se rend dans la montagne de Judée, donc au sud vraiment, la Galilée est au nord d'Israël. La Judée, c'est au sud, c'est la région de Jérusalem. Et Marie, selon la tradition, se rend un petit peu plus au sud que Jérusalem. Elle se retrouve chez sa cousine, qu'elle salue, on connaît l'échange de ces deux femmes et la tradition iconographique nous a donné beaucoup de représentations de la rencontre des deux cousines. Et c'est là que Marie, après cette salutation, la bénédiction de sa cousine, élève la voix et chante un psaume, un cantique merveilleux qui a tellement marqué les générations de croyants que il est repris chaque soir dans la prière des vêpres. Beaucoup de gens connaissent ce texte, même si parfois il leur semble un peu obscur.
Alors je repose ma question du pourquoi. Le sens, c'est, pour reprendre mon introduction aussi, c'est qu'à travers le Magnificat, non seulement on découvre Marie, mais quelque chose de ce que Dieu révèle de lui-même à travers Marie.
Ah oui, nous allons voir ça, mais alors vraiment, c'est manifeste. Marie chante ce que Dieu a fait pour elle, mais ça concerne beaucoup plus qu'elle, et nous allons pouvoir en parler, oui.
La prochaine conférence, en l'occurrence, donc c'est pas pour ceux qui nous quitteraient maintenant, ce n'est pas le Magnificat puisque donc la conférence est passée. Ça sera les femmes dans l'Évangile. Ça sera Ruth contre Jézabel, la question des femmes étrangères. Ça sera le jeudi 6 mai. C'est une conférence à retrouver en ligne sur formationdiocèse31.org. Formationdiocèse31.org. Le 6 mai prochain, Ruth contre Jézabel, la question des femmes étrangères.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Les femmes dans la Bible, cinquième émission donc de cette série annuelle, avec ce matin comme thème donc Marie et le Magnificat. Et nous sommes avec Cyprien Comte, pour rappel, qui est prêtre et maître de conférences en théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Vous allez donc nous faire parcourir ce Magnificat. Vous pouvez peut-être nous le donner, le Magnificat, quand même, qu'on l'ait en tête.
Ah, volontiers. Beaucoup, je crois, le connaissent, mais c'est toujours bon de le rappeler. Je vais utiliser la traduction liturgique avec peut-être une ou deux petites variantes. Mon âme exalte le Seigneur. C'est ainsi que commence la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur l'humilité de sa servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de grandes choses, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de sa miséricorde, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais.
Alors ce texte, c'est le premier entre guillemets angle que vous proposez. On imagine que Marie en fait a exulté en le récitant, en le donnant, et qu'elle se nourrissait de d'autres sources. C'est donc ce qu'on va voir dans un instant. Mais avant ça, est-ce qu'on est sûr que Marie l'a dit ce Magnificat? Est-ce que ça a été reconstruit après par les évangélistes?
C'était des questions très difficiles. Vous savez, on parle de l'historicité des récits évangéliques. Dans la foi, nous reconnaissons vraiment l'âme de Marie dans ce texte. Mais l'historien ne peut rien dire, parce qu'en fait, il n'a que le texte de l'évangile pour cela. Et donc, historiquement, on ne peut pas être sûr de ce que Marie a dit ou fait. Nous qui savons historiquement que Jésus a existé, parce que ça c'est prouvé historiquement et qu'il n'y a pas d'historien sérieux qui dise le contraire, nous pouvons penser que l'évangile n'a pas inventé le nom de ses parents.
Parce que je vous dis ça, mais comme on va le voir dans un instant, comme en fait ce cantique de Marie en fait est nourri de d'autres textes, j'avais cru comprendre, certains disent que du coup c'est une construction.
Ouais, c'est difficile à dire, hein, parce que est-ce que la Vierge Marie, qui n'était sans doute pas allée à l'école, mais qui a pu être nourrie par les prières de la religion juive, et nourrie par l'Écriture sainte, et puis on ne peut pas mettre de côté l'inspiration divine, si vous voulez. Et donc, même si c'est quelque chose dont les exégètes, les biblistes ne parlent pas tous les jours, pour autant, est-ce que c'est impossible qu'une jeune fille de 13-14 ans, j'allais dire nourrie au lait de l'Ancien Testament, est-ce que c'est impossible qu'elle ait pu reprendre ces différents fils qui courent dans les écritures, qui sont ces écritures, qui sont les écritures du monde juif? Est-ce que c'est impossible qu'elle ait composé ce cantique? Je ne crois pas. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une certitude historique? Je ne sais pas non plus. En effet, le texte est extrêmement riche, et comme nous allons le voir sans doute tout à l'heure, il est en parfaite consonance avec bon nombre des thèmes qu'on trouve dans l'évangile de Saint-Luc, et même dans d'autres textes, notamment du Nouveau Testament.
Alors, quel a été le lait de Marie, pour reprendre votre expression, les textes, quelque part, qu'elle avait peut-être en tête, et dont ce cantique est, non pas forcément inspiré, mais qui est un peu, le substrat de la culture de Marie.
Alors, à vrai dire, il y a une multitude de textes. Ça pourrait faire l'objet, je pense, d'émissions de radio longues et de conférences et de livres presque sans fin. Je ne sais pas si ce livre existe, mais ça pourrait être intéressant que quelqu'un fasse cette étude comparative du Magnificat avec toutes les citations ou allusions à l'Ancien Testament qu'on y trouve. Ceci dit, pour en citer seulement quelques-unes, si vous le voulez bien, je vous propose de nous rappeler un texte du livre des Proverbes, où il est fait mention de la femme vaillante, la femme forte qui est active, qui fait la fierté de son mari et la prospérité de sa maison. Et on trouve dans ce texte de Proverbes, chapitre 31, on trouve notamment l'expression « ses fils la proclame bienheureuse. Et nous, ça nous fait penser, bien sûr, à désormais, tous les âges me diront bienheureuse. C'est d'ailleurs le même mot, bienheureuse, qui se trouve dans les béatitudes. Et il y a là aussi des ponts entre ce chapitre 1 de Saint-Luc et ce cantique de la Vierge Marie, d'une part, et puis le chapitre 6 de Saint-Luc avec les fameuses béatitudes, un peu différente de celle de saint Matthieu. Mais alors donc, un lien vers le livre des Proverbes, en fait c'est vraiment la conclusion du livre des Proverbes.
À cause de l'expression « bienheureuse ».
Voilà, tous ses fils la proclameront bienheureuse. Effectivement, on peut penser que Marie a en tête ce texte et que Saint-Luc qui rapporte ses paroles, c'est bien. À quel texte il est aussi en train de faire référence en rapportant ses paroles. Mais en fait c'est un petit peu anecdotique de dire cela, parce qu'il y a juste un mot. Mais il faudrait par contre relire beaucoup plus longuement le cantique d'une autre femme qui,
Anne.
Voilà, c'est Anne. Alors non pas Anne, la mère de Marie, mais Anne qui vivait 1000 ans avant, même un tout petit peu plus, puisque Anne est la mère de Samuel. Et alors on trouve un certain nombre de parentés. Samuel le prophète.
Le prophète, grand prophète de
le grand prophète qui a oint les deux premiers rois d'Israël. Samuel est à la fois prêtre, juge et prophète, et il a donné l'onction à Saül, puisque le peuple voulait un roi, et aussi à David, qui était celui que Dieu aimait. Et finalement, Samuel a fait et défait, on pourrait dire, un roi d'Israël pour en faire un autre ensuite. En tout cas, le début du premier livre de Samuel, donc nous sommes dans l'Ancien Testament, le début du premier livre de Samuel, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, raconte la genèse, si on peut dire l'origine de ce prophète Samuel. Sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant, et on raconte que son mari Elkana avait deux femmes. Et alors l'autre femme de Elkana, en fait, méprisait Anne parce qu'elle ne parvenait pas à avoir d'enfant. Et alors on voit Anne qui est extrêmement pieuse et qui fait une prière très humble devant Dieu et qui implore le Seigneur au temple de Silo. Alors on est plutôt un petit peu au nord de Jérusalem, dans un des sanctuaires d'Israël. Et en fait, Anne demande au Seigneur un fils en disant « Si tu me donnes un fils, alors je te le donnerai en retour. » Et en fait, c'est ce qui s'est produit d'après le texte biblique, c'est-à-dire que Samuel a été donné merveilleusement à Elkana et Anne. Et alors Anne a, elle aussi, élevé la voix pour chanter un cantique extraordinaire et qui est extraordinairement proche du Magnificat.
Alors juste, on va peut-être pas le dire en intégralité,
d'accord,
mais si vous deviez faire les parallèles justement avec le Magnificat, sur quel point vous voudriez vous arrêter ?
Il y a la joie extrême que Anne exprime, qui fait penser à celle de Marie. Et le tout début du cantique chez Anne, c'est « Mon cœur exulte dans le Seigneur ». Alors Anne et Marie ensuite rendent grâce pour la délivrance personnelle que Dieu a accompli pour elles. Elles font toutes les deux l'éloge de la sainteté de Dieu. On connaît le mot de Marie, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Et Anne avait dit, personne n'est saint comme le Seigneur. Les deux parlent aussi, c'est très intéressant, de l'attitude juste devant Dieu qui est une attitude d'humilité. Les deux disent que Dieu abaisse les oppresseurs et relève les opprimés. C'est un petit peu une espèce de grand renversement qui sera très présent dans la théologie de Saint-Luc, notamment. Et puis, les deux parlent aussi de la promesse divine et d'une promesse qui s'accomplit. On pense au mot de la Vierge Marie, hein, « Il se souvient de son amour et de la promesse faite à nos pères ». En fait, Anne disait aussi voilà, que le Seigneur garde les pieds de ses fidèles et que ceux qui l'attaquent seront brisés par le Seigneur. Voilà, donc vraiment, le Seigneur est fidèle à ce qu'il a promis à ses serviteurs et à ses servantes.
Donc on peut imaginer que Marie avait récité ce cantique, qu'elle le connaissait ?
Très probablement, effectivement, parce que, vous savez, les psaumes sont le livre de prière d'Israël. Alors peut-être que parmi les auditeurs, il y en a un certain nombre qui ont des livres de prière chez eux. Et il est vrai que si on pratique un livre de prière, au fur et à mesure, on peut avoir ses textes préférés, n'est-ce pas ? Des textes qu'on médite, qu'on rumine et qu'on va connaître par cœur. Alors il est vrai que dans une culture orale, on n'est pas du tout sûr que la Vierge Marie savait lire. Il n'y a pas forcément de raison de le penser. Une fille de 13 ou 14 ans n'avait pas sans doute beaucoup de raisons de savoir lire à l'époque. Par contre, la culture orale fait qu'elle avait certainement mémorisé un certain nombre de, de prières, de poèmes liturgiques, et donc sans doute elle s'était sentie aussi très proche, pour différentes raisons, hein, de cette Anne qui exultait dans le Seigneur et qui chantait l'accomplissement de la promesse d'une manière qui a correspondu presque parfaitement à ce que Marie elle-même vivait.
L'autre parallèle que vous vouliez faire avec un texte de l'Ancien Testament dans ce Magnificat, c'est donc un psaume, c'est le psaume 34.
Alors on pourrait, hein, parmi mille autres, dont j'exagère un peu, il n'y a que 150 psaumes, 151 si on ajoute un psaume orthodoxe qui a été inclus à la traduction écuménique de la Bible, hein, dans la dernière décennie, mais en tout cas le psaume 33 dans la liturgie ou 34 dans la Bible commence par ces mots. On connaît bien le début. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Et donc il y a un psaume de bénédiction, mais la suite est encore plus évidemment proche de ce que nous entendons dans le Magnificat. Dans le Seigneur, mon âme se loue. Et encore, qu'ils écoutent les humbles, qu'il jubile.
Donc là, c'est le psaume 34.
Hein. Ça, c'est le psaume 34. Vraiment, effectivement, il y a des liens assez forts avec cette jubilation, cette exaltation des humbles qu'on retrouvera dans le Magnificat.
La question peut paraître abrupte, mais qu'est-ce que ça permet de découvrir de Marie, puisque c'est le thème de votre cycle de conférences, que de faire cet aller-retour avec d'autres textes de l'Ancien Testament?
La
femme qu'elle était, tout simplement, ou la croyante?
Vraiment, la jeune Marie est un exemple de prière. Un exemple de prière et aussi un beau témoignage de connaissance des livres bibliques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes souvent très ignorants de ce qu'il y a dans la Bible et peut-être encore plus de ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Dieu merci, un certain nombre d'auditeurs sont familiers de l'Évangile et c'est une bonne chose. Mais il est vrai que quand on lit l'Ancien Testament, alors dans ma paroisse, on m'a demandé si c'était possible de faire un groupe pour lire ensemble l'Ancien Testament. Et on a l'impression qu'on fait ensemble des découvertes à chaque fois que c'est possible de se réunir ou bien de communiquer à distance. Voilà, on découvre des choses qui nous semblent comme si on les lisait pour la première fois. Alors la Vierge Marie nous donne ce bel exemple de quelqu'un qui est complètement pétri en fait de la parole de Dieu. Si vous permettez un parallèle, les pères de l'Église, après les auteurs du Nouveau Testament bien sûr, mais les pères de l'Église nous donnent un petit peu cet exemple-là. Je pense qu'on pourrait trouver aussi dans les monastères ou parmi les amis du Seigneur encore aujourd'hui des gens qui méditent tellement la parole de Dieu qu'elle devient comme un autre eux-mêmes. Et finalement, il y a des gens qui s'expriment en reprenant les mots de la Bible, et parfois on ne sait plus bien si ce sont eux qui s'expriment ou s'ils sont en train de nous redonner le meilleur de ce qu'ils ont médité dans leur prière. Et ça, c'est une des merveilles qui se produit quand nous lisons, quand nous entendons, quand nous chantons le Magnificat.
L'autre manière de nous aider à avancer dans la découverte de Marie et donc de ce texte qui est le Magnificat, sur lequel donc vous vous arrêtez lors de cette conférence et puis lors de cette émission, c'est donc d'essayer de voir, c'était donc mon introduction, ce que Dieu révèle de lui-même à travers la figure de Marie. Alors pour ça, vous faites aider, si je puis dire, par un auteur. Peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots.
Le Michel Gourgue, qui a effectivement écrit un exégète, un bibliste qui a beaucoup travaillé au Canada. Je ne sais pas si on peut trouver ses livres, notamment édités au Canada. En tout cas, c'est en français, donc ça c'est bien pratique. Et il y a un cahier évangile qui traite en fait, le cahier évangile, vous savez, c'est cette collection de revues qui paraissent quatre fois par an en fait, et qui permettent de donner accès au grand public, aux connaissances bibliques en monde catholique. Et donc c'est souvent vraiment d'excellentes synthèses qui continuent à paraître encore aujourd'hui. Hein. J'ai des collègues qui travaillent encore aujourd'hui. Et à vrai dire, Michel Gourgue a écrit donc une partie de son cahier évangile sur les hymnes du Nouveau Testament en la consacrant évidemment au Magnificat. Alors c'est très intéressant de voir que, à la suite des exégètes qui ont fait des études savantes sur ce texte, il divise le Cantique de Marie en fait en trois parties en fonction des personnes qui sont concernées par l'action de Dieu. Alors c'est assez remarquable de voir que, alors pour les gens qui veulent les numéros des versets, donc on est dans Saint Luc au chapitre 1, et en fait le Magnificat donc s'étend entre le verset 46 et le verset 55, et on peut y discerner facilement trois parties. D'abord, on découvre qui est le Dieu qui se penche sur Marie. Ensuite, on découvre l'action de Dieu vis-à-vis des humbles. Et puis la troisième partie traite du Dieu qui tient ses promesses envers Israël. Et donc, c'est en fait, déjà, ça nous aide beaucoup à comprendre ce que dit le Magnificat, de voir comment il est structuré. Vous voyez, 2, 3, 4 versets sur le Dieu de Marie, puis ensuite, c'est versets 50 à 53, comment Dieu agit envers les plus simples, en fait, les plus humbles, et aussi les oppresseurs et les puissants, par contraste. Et puis ensuite, comment Dieu se comporte avec son peuple. Est-ce qu'on a le temps d'entrer un peu plus
alors,
en détail ?
Alors, allons-y, oui. Qu'est-ce que ça dit de Dieu à chaque fois, si on s'arrête sur ces trois parties ? Alors qu'est-ce que Dieu révèle de lui-même, d'une certaine manière ?
Le Dieu qui agit envers Marie, il y a un mot, une racine, une racine verbale dans le texte grec qui revient et qui est bien connu, en fait, c'est « mégas » ou « mégala ». En fait, le premier mot du Magnificat, c'est « magnifie mon âme, elle magnifie mon âme le Seigneur ». Donc c'est le verbe qui dit que mon âme grandit, mon âme exalte, comme on traduit, le Seigneur. Et en fait, sur la fin de cette section du Magnificat, Marie dit « Le Seigneur fit pour moi de grandes choses ». On traduit quelquefois « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Et donc, on voit bien que ce chant est un chant qui exalte la grandeur de Dieu. Et cette grandeur, elle se manifeste en particulier dans les grandes choses que Dieu fait pour Marie. Elle découvre qu'elle est faite pour être la mère du Sauveur, alors qu'elle était une humble jeune fille qui se destinait sans doute à une vie relativement ordinaire en Galilée, même si les biblistes disent souvent que dans son mariage, elle avait des projets un petit peu particuliers quand même. Et on voit comment elle rend grâce à Dieu et son esprit, en quelque sorte, se dilate. La joie de Marie, comme la joie de chacun de nous quand nous sommes un peu attentifs à ce que Dieu fait, la joie de Marie, c'est de voir ce que Dieu accomplit dans sa propre histoire. Peut-être que une remarque intéressante, c'est de voir que il y a une petite différence avec ce que disait Élisabeth. Vous vous rappelez, Élisabeth disait « Bienheureuse celle qui a cru » et Marie dit « Toutes les générations me proclameront bienheureuse parce que le Seigneur a fait pour moi des grandes choses. » Elle dit que c'est l'action de Dieu dans sa vie qui la conduit à exulter.
Deuxième point, c'est donc le Dieu des humbles. C'est un thème récurrent, ça, dans les Écritures. Qu'est-ce qui est révélé de nouveau ?
C'est tellement un thème récurrent qu'en fait, maintenant, on a pris l'habitude même de connaître le terme hébreu qui dit les humbles. Et on parle quelquefois des anawim. Il me semble qu'on ne devrait pas faire la liaison, de parler plutôt des anawim, qui sont effectivement les gens humbles, les gens courbés, les gens humiliés, et dont tout l'Ancien Testament, enfin un certain nombre de textes de l'Ancien Testament...
C'est les chouchous de Dieu, ça.
Voilà, c'est ça, parce que ce sont des gens qui, en fait, ne peuvent compter que sur lui. Et en fait, Marie reprend ce thème en le synthétisant et en l'exprimant d'une manière extrêmement frappante, avec des oppositions. Alors, on est presque étonné, en fait, de voir ce langage que certains ont qualifié d'un petit peu violent, voire martial.
Vous pouvez les rappeler, peut-être.
Alors, en fait,
si vous l'avez dit tout à l'heure.
Effectivement, Marie oppose finalement l'action de Dieu vis-à-vis des humbles à celle qu'il a vis-à-vis des puissants. Voilà. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Et donc on voit en fait que à travers le registre religieux, politique et aussi économique, en fait, Marie est en train de chanter l'action de Dieu qui choisit ceux qui sont toujours laissés pour compte. Et nous comprenons, quand je parlais tout à l'heure de la grande inversion qui est un thème un petit peu classique chez ceux qui étudient la Bible, en fait, on voit que l'option préférentielle dont parle l'Église et qu'elle essaye de vivre humblement pour les pauvres, elle est inscrite dans l'Évangile. Parce que c'est comme cela que Dieu se conduit. Il choisit en particulier ceux qui sont humbles, non pas d'abord parce qu'ils sont dépourvus de biens matériels, mais parce qu'il peut y avoir dans leur cœur aussi une place pour sa propre action. Et Marie, en fait, dit cela en chantant avec ce thème qui est très très présent chez Saint Luc. Voilà le choix de Dieu pour ceux qui, en fait, n'ont pas d'autre recours.
Et le dernier point, peut-être, j'allais dire plus rapidement, mais non, ça va, on a le temps. Le Dieu d'Israël, donc pour rappel, on essaye à l'intérieur du texte du Magnificat, donc de s'arrêter sur ce que Dieu révèle de lui-même, et Dieu révèle quelque chose à travers donc Marie, ce qu'elle était, on va dire, à travers ce qu'elle dit de ce grand renversement, et donc à la fin, parce que le Magnificat parle d'Israël.
Le Magnificat parle d'Israël et notamment dans les versets 54 et 55, donc la conclusion un peu de ce cantique de Marie, chapitre 1 de Saint Luc. En fait, Dieu manifeste qu'il sait faire miséricorde aux pauvres, mais aussi à Israël. Peut-être que quand nous lisons, quand nous entendons le Magnificat, souvent notre traduction a dit il se souvient de son amour. On parle de l'amour de Dieu. Et en fait, dans le texte grec, il y a écrit miséricorde. On pourra peut-être y revenir. Mais en tout cas, le Magnificat chante le souvenir que Dieu a de sa miséricorde pour Abraham et pour sa descendance. À vrai dire, Marie est en train de s'inspirer encore d'un autre texte de l'Ancien Testament. On pourrait peut-être le citer ici. C'est dans Isaïe au chapitre 41, les versets 8 et 9. Je vous les lis simplement. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de mots, de thèmes communs avec cette conclusion du Magnificat. Isaïe 41, versets 8 et 9. « Mais toi, Israël, mon serviteur, » c'est Dieu qui parle, « Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai relevé des extrémités de la terre. Je t'ai appelé et je t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi. » Et donc c'est assez frappant de voir la parenté de vocabulaire. On comprend que Dieu a choisi un peuple, c'est le mystère de l'élection d'Israël. Et c'est beau que ça soit présent dans l'Évangile. Vous voyez, quelquefois on dit que les évangiles sont faits pour des juifs, quelquefois on dit qu'ils sont faits pour des païens, en fait ça dépend un petit peu des passages. C'est vrai que les évangiles, ils annoncent d'abord la nouveauté de Dieu en Jésus-Christ, mais ils le font à l'intérieur d'une tradition. Et ici nous voyons bien combien il y a continuité, et ce texte insiste surtout sur la continuité, vous remarquerez d'ailleurs que le Magnificat ne parle pas expressément de Jésus. Par contre, il parle de la miséricorde et du choix que Dieu a exercé en faveur d'Israël, en faveur d'Abraham, déjà des centaines d'années avant, pour cet ancêtre légendaire et tellement important, voilà, de tout Israël, et donc de Marie. Et on voit bien que cette miséricorde, eh bien, elle s'étend non pas seulement sur Marie et sur les générations qui suivront, mais déjà depuis toujours, en particulier à travers le peuple d'Israël que Dieu a choisi pour que sa bénédiction puisse s'étendre à l'ensemble des peuples de la terre.
Radio Présence à Moissac 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les femmes dans la Bible, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, cinquième émission de cette grande série annuelle qui fait écho donc à un cycle de conférences de l'Institut catholique de Toulouse. Et nous sommes, pour ceux qui nous rejoindraient, avec Cyprien Comte, qui est prêtre et maître de conférences en théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Vous vouliez, pour finir ce parcours donc sur le Magnificat et sur la figure de Marie, vous arrêter encore sur deux points et puis peut-être nous aider un petit peu à nous approprier votre travail exégétique, un peu exigeant, mais c'est aussi l'angle de cette série d'émissions. Deux points, l'humilité et la miséricorde, on l'aura compris à travers tout ce que vous nous avez dit du Magnificat, et puis quand vous l'avez redonné, et puis avec la figure de Marie, il n'y a pas vraiment de surprise. Pourquoi vouliez vous arrêter peut-être sur ces deux points pour finir?
Alors, à vrai dire, nous autres biblistes, nous sommes parfois un petit peu pénibles avec nos étudiants. Nous regardons les mots qu'il y a dans le texte et j'ai été frappé par la répétition de certains mots dans le texte du Magnificat. Effectivement, il y a l'humilité et les humbles. Marie dit que Dieu s'est penché sur l'humilité de sa servante. Quelquefois, on a une autre traduction, mais littéralement, il faudrait traduire comme cela. Dieu a regardé d'en haut vers l'humilité de sa servante. Et puis, elle a dit aussi, il élève les humbles. Donc, la raison était toute trouvée. Et pour la miséricorde, c'est la même chose. Et ça se double, en fait, de l'intérêt que souligne la nouvelle traduction liturgique. Puisque, en fait, vous le savez, depuis maintenant... 2013, on utilise un nouveau lectionnaire dans l'Église catholique, et à vrai dire, le mot de « amour » qui traduisait jusqu'ici un terme grec dans le Magnificat est juste, mais il est encore plus juste de traduire par « miséricorde ». Et alors, d'ailleurs, la faculté est donnée à chaque évêque dans son diocèse, s'il le souhaite, de permettre que quand on chante le Magnificat, au lieu de dire « il se souvient de son amour », on dise « il se souvient de sa miséricorde ». Je crois que dans notre région, au moins dans le diocèse de Cahors, c'est le cas. Voilà.
Alors l'humilité, vous vouliez pour finir aussi nous parler de celle qui est en, on va dire que, qui est désignée en creux, qui est celle de Jésus. Comment est-ce que vous faites rentrer Jésus à l'intérieur du Magnificat dont Marie ne parle pas?
Alors ce n'est pas un tour de passe-passe, mais je suis passé par un dictionnaire théologique du Nouveau Testament pour regarder le mot humilité, le mot humble. Et il se trouve que, en fait, ces mots sont assez employés dans le Nouveau Testament, mais que le passage qui m'est venu en tête et qu'il utilise d'une manière extrêmement flagrante, c'est un texte qui concerne Jésus. Dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, Saint Paul donc écrit à ces chrétiens de la ville de Philippe en leur disant, bon, on ne sait pas exactement quel était le contexte, on peut peut-être imaginer qu'il y avait des soucis à ce sujet, il invite les Philippiens à regarder les sentiments du Christ Jésus pour s'en inspirer, pour les pratiquer. Et il a, à ce moment-là, il insère ce texte qui n'est probablement pas de lui, mais qui est un texte liturgique, encore une hymne que sans doute les Philippiens connaissaient parce qu'ils la chantaient dans la liturgie, où on dit « Le Christ Jésus, qui était dans la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est abaissé, il s'est humilié jusqu'à la mort, et c'est pourquoi Dieu l'a exalté. » Alors ce cantique, qui est repris dans les vêpres chaque samedi soir, quand on entre dans la célébration du dimanche, fait l'éloge de l'humilité du Christ, de son abaissement volontaire, qui a entre guillemets, qui a permis, si je puis dire, à Dieu de l'exalter. Et donc, en fait...
Le lien avec le Magnificat, là, c'est...
C'est que, en fait, l'humilité, c'est bien la qualité que Marie... Non pas dont elle se vante, ça serait paradoxal, évidemment, mais au contraire, elle reconnaît que si Dieu s'est penché sur sa servante, c'est parce qu'elle était humble. Peut-être parce qu'elle était insignifiante, justement. Peut-être parce qu'elle était, elle n'était pas quelqu'un qui était en partie pour réussir sa vie aux yeux des hommes. Et Dieu s'est penché sur elle dans sa miséricorde, on va y revenir, en disant, cette femme abaissée, finalement, elle est le portrait de ce que Dieu aime.
On va dire qu'en creux, on va dire le prolongement pastoral de votre méditation sur ce point, les auditeurs auront compris. L'autre point, c'est donc la miséricorde. Là aussi, vous vouliez faire un détour par un peu d'étymologie.
Alors, la miséricorde, c'est intéressant de dire le mot en grec, si vous permettez, parce que ce mot « éleos », c'est celui que nous chantons quand nous disons « Kyrie eleison », »,« Christe eleison ». On traduit par « prends pitié ». Ça serait plus juste de dire « Seigneur, fais miséricorde », « au Christ, fais miséricorde ». Et peut-être pour vous faire sourire, on pourrait dire la traduction qu'un bibliste facétieux avait proposée pour « Christe eleison ». Il disait, on pourrait dire « ô oin, apitoie-toi ». Voilà, ceci dit, blague à part. Donc, eleison, cela signifie « fait miséricorde » et « l'éléos est d'abord un terme qu'on trouve en fait dans la littérature profane, dans la littérature grecque, qui définit les rapports interpersonnels qui devraient être ceux d'une société bien portante, si l'on peut dire. C'est-à-dire, en fait, c'est l'éléos, c'est l'émotion causée par une peine dont quelqu'un n'est pas responsable. Voyez-vous, vous rencontrez quelqu'un dans la rue ou dans votre travail qui souffre de manière injuste.
C'est la compassion, quelque part.
Voilà, vous êtes plein de compassion. Vous avez une miséricorde qui vous monte aux entrailles parce que finalement, vous vous dites mais en fait, cette personne mérite mon affection, entre guillemets, et pas ce qui lui arrive.
Alors pourquoi vous parlez de la littérature grecque, là ?
Parce que le mot est le même. Parce que le mot « éléos » est employé dans la littérature grecque et qu'il a été repris dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau, pour définir non seulement les rapports entre les êtres humains, donc la compassion qui est nécessaire pour qu'une société vive une certaine solidarité aussi, mais notamment dans l'émotion, même si on sait bien que ça ne suffit pas. Et il se trouve que ce vocabulaire devient aussi un vocabulaire théologique. C'est-à-dire que Dieu exerce sa miséricorde, son éléos en grec, envers nous, envers Marie et envers Israël, quand il est simplement fidèle à ce qu'il est. C'est-à-dire quand il nous aime gratuitement et quand il est constant dans cet amour. Alors on trouve un petit peu tout cela dans le Magnificat, vous voyez. Donc c'est assez intéressant de voir comment la miséricorde de Dieu, saint Paul en reparlera en disant qu'il y a aussi un aspect eschatologique. C'est-à-dire que cette miséricorde de Dieu...
Eschatologique, rappelez-vous.
Voilà, ça nous tourne vers les fins dernières. L'eschaton, c'est le dernier en grec. Et donc l'eschatologie, c'est le discours sur la fin des temps. En fait... Quand on parle miséricorde, d'après saint Paul, on regarde déjà vers la consommation des temps, ce moment où en fait Dieu a prévu de faire miséricorde à tous ceux, au moins qui accepteront cette miséricorde.
Peut-être pour finir, s'il devait y avoir un prolongement entre guillemets pastoral, vous me direz c'est en creux de tout ce qu'on a dit là, et puis ça peut être aussi un peu intimidant parce que Marie c'est quand même on va dire la figure humaine par excellence.
Mmh. Oui, mais elle a été choisie parce qu'elle était toute simple justement. Je crois qu'avec ces deux mots, la miséricorde et l'humilité, nous avons quelques bons repères. Voir comment Dieu agit dans le Magnificat envers Marie, envers les humbles, envers Israël, c'est passionnant aussi. Et puis peut-être un mot pour finir en disant mais Marie nous apprend à prier finalement. C'est assez impressionnant. Et je me dis quelquefois aussi que quand nous prions, nous le faisons en raison d'une détresse que nous rencontrons chez nous ou chez quelqu'un d'autre, ou peut-être pour d'autres raisons. Je trouve que la prière de Marie vient enrichir la nôtre. Parce que non seulement elle exulte devant l'action de Dieu, et nous avons à apprendre cette prière d'action de grâce, mais aussi dans sa prière... Elle regarde ce que Dieu fait pour elle, mais elle ne s'arrête pas là. Elle s'émerveille de l'action de Dieu envers les humbles. Elle s'émerveille de l'action de Dieu envers les puissants, qui n'ont pas, parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes, qui n'ont pas part finalement à la grâce de Dieu. Elle s'émerveille de l'action de Dieu envers son peuple. Et là, on peut parler d'Israël, on peut parler de l'Église, on peut parler de tous ceux qui sont aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, les amis de Dieu. Je trouve que cela élargit considérablement les intérêts spontanés de notre prière.
Eh ben merci Cyprien Comte de nous avoir emmené sur les chemins de ce travail exégétique sur Marie et le Magnificat. Pour rappel, donc ce cycle de conférences Les femmes dans la Bible, vous pouvez retrouver toutes les conférences sur formationdiocèse31.org, formationdiocèse31.org, et sur ce même lien ou site, vous pouvez donc suivre la prochaine conférence, ça sera le jeudi 6 mai, sur le thème Ruth contre Jézabel, la question des femmes étrangères.
Ça sera 18h.
Hein. 18h, pardon. Merci beaucoup. À la technique, Jonathan Botello. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h. Vous la retrouvez en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.